Philippe Nanzer.
La prudente avancée vers un cessez-le-feu à Gaza. Ce soir, le Hamas annonce avoir remis aux médiateurs internationaux sa réponse à la proposition américaine de trêve dans ce territoire palestinien. Le mouvement islamiste se garde cependant bien de déclarer s'il a explicitement ou non accepté cet accord. Il se dit prêt à libérer 10 otages vivants et les corps de 18 autres décédés, donc, comme le stipule la proposition américaine. C'est le géologue cantonal valaisan qui l'affirme. La situation est un peu meilleure qu'hier dans la vallée du Lotchental où se trouve Blatten. L'eau du lac qui s'est formée suite à l'éboulement a fini par trouver son chemin et du coup, le niveau d'eau a baissé d'environ un mètre. Raphaël Mayora ajoute que concernant les localités en aval de Blatten, le risque d'une nouvelle catastrophe est très faible. Pour l'heure, il est demandé aux curieux et aux touristes de ne pas se rendre dans la vallée du Lotchental. Une personne de 64 ans reste toujours disparu. Et puis en fin d'après-midi, Martin Pfister s'est à nouveau rendu sur les lieux de la catastrophe. Le ministre de la Défense a été amené à bord d'un hélicoptère des forces aériennes suisses. Il atterrit dans le village de Willer, en contrebas, Platen, pour participer à une réunion avec les populations sinistrées. Du tennis avec le numéro 1 mondial Yannick Sinner qui a réalisé une impressionnante démonstration de force aujourd'hui dans le cadre du troisième tour de Roland-Garros. L'Italien de 32 ans a été expéditif face au Tchèque Jiří Lehenka. La victoire a été ficelée en 1h34 et en 3-7, à savoir 6-0, 6-1, 6-2. En huitième de finale, Yannick Sinner rencontrera Audrey Roblev. Et puis chez les dames, l'Américaine Coco Gauff s'est imposée face à la Tchèque Maria Buskova en 2-7, 6-1 et 7-6. En huitième de finale, elle sera opposée à la Russe Ekaterina Alexandrova. Du cyclisme à l'issue de la 20e et avant-dernière étape du Tour d'Italie. Aujourd'hui, le Britannique Simon Yates a subtilisé le maillot rose au Mexicain Isaac Del Toro. La victoire d'étape est toutefois revenue à l'Australien Chris Harper. La première journée de canicule de l'année est enregistrée aujourd'hui en Suisse. Les températures ont dépassé les 30 degrés dans plusieurs endroits. Le mercure a notamment atteint 31,3 degrés à Viège, dans le Haut-Valais, et 30,2 degrés à Cointrin, dans le canton de Genève. D'autres stations ont dépassé la barre des 30 degrés, notamment dans la région baloise, comme à Bald-Biningen, où le thermomètre de cette station météo a atteint les 30,9 degrés. Et puis, la météo de demain promet d'être plus ou moins identique à celle d'aujourd'hui, plus ou moins parce que en seconde partie de journée, quelques averses ou quelques orages seront possibles, des intempéries qui seront accompagnées à proximité de fortes rafales de vent. Et lundi, le thermomètre va redescendre aux alentours de 20 degrés. Il faudra de nouveau faire avec des nuages et des risques d'averses dès le matin.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Voix cristalline ou puissante, voix qui caresse ou qui transperce. Du 4 au 19 juillet au Montre Jazz Festival, laissez-vous séduire par les plus grandes voix d'artistes légendaires. Parmi les têtes d'affiche, Pulp, Ray, Lionel Richie, Isolt, ou encore Neil Young and the Chrome Hearts. Plus d'informations sur montrejazzfestival.com.
Le Grand Soir.
Retrouvez le festival dans Le Grand Soir, du lundi au jeudi dès 19h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
Sport Première. Laurent Bastardo.
Avec ce rappel tout d'abord des 20h30, place à la grande finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter de Milan. Joël Robert et Gérard Castella commenteront cette finale en direct et en intégralité pour vous. Mais avant cela, jour J-1 pour la finale de la Coupe de Suisse qui se disputera demain à 14h à Berne entre le FC Bâle et le FC Bienne. Et pour parler de cette finale, le plaisir de raccueillir Gérard Castella qui est en notre compagnie entre 19h50 et 20h. Vous êtes membre de la commission sportive des Young Boys, chef de la relève. Heureux de vous accueillir et avant de commenter cette finale avec Joël, on aura quand même quelques questions à vous poser concernant justement Young Boys et la Coupe de Suisse. Présent également Grégoire Augier, qui après avoir commenté hier le match France-Suisse féminin a préparé avec l'aide de Miguel Bao cette page de Coupe de Suisse. Rebonsoir ou rebonjour Grégoire.
Rebonsoir Laurent, rebonsoir à toutes et à tous.
Alors tout d'abord un match entre Bâle et Bienne qui s'annonce sur le papier déséquilibré, mais trois petits points.
Oui, ben pour être assez franc, il faut dire, hein, c'est cette centième finale de la Coupe de Suisse est certainement la plus déséquilibrée de l'histoire. C'est la première fois qu'un club de troisième division va pouvoir disputer cette finale. Donc forcément, Bâle, le tout nouveau champion de Suisse en titre, part grand favori de cette finale. Le FC Bienne, eh bien, va lui essayer de bousculer la hiérarchie, de surprendre tout le monde. Voilà, et il y a une infime chance pour que le FC Bienne puisse remporter cette finale de la Coupe de Suisse, mais à coup sûr, on va l'entendre dans la prochaine demi-heure, hein, les différents acteurs de cette équipe et de ce club vont jouer crânement leur chance. Mais oui, c'est vrai qu'au moment du coup d'envoi, on peut s'attendre à une finale qui sera déséquilibrée. Il y a un grandissime favori, le FC Bâle, qui a tout pour lui, tout pour réussir le sixième doublé de son histoire. Cinq doublés jusqu'à présent, tous réussis après l'an 2000, le FC Bâle est certainement le grand club du pays, le grand club qui domine le football suisse depuis le début des années 2000. Bâle a connu quelques années plus compliquées. Il revient sur le devant de la scène cette année avec ce tout nouveau titre de champion de Suisse. Et Bâle a donc l'occasion de réussir un retour parfait sur le premier plan du football suisse avec un doublé qui, on va le dire, hein, lui tend les bras avant cette finale.
Alors, il faudra quand même jouer 90 minutes parce qu'on rappelle quand même que la formation viennoise a éliminé Xamax, puis ensuite Lugano, puis ensuite Young Boys. Alors justement, puisqu'on vous tient Gérard Castella, j'imagine que cette défaite 1-0 en demi-finale a fait très très mal.
Oui, elle a fait très très mal, parce que c'est clair que c'est vraiment un échec retentissant. On n'était pas préparé à perdre contre le FC Bienne en demi-finale, alors que on était normalement les favoris de ce match. On était certainement la meilleure équipe de ce match, mais enfin voilà, le FC Bienne a fait un match héroïque. Ils ont tout donné sur le terrain, ils ont été au-delà de leurs limites. Et nous, on a manqué de clairvoyance, on a manqué d'un petit peu de tout, et surtout pense aussi parfois un petit peu de réussite. Et puis après, encore, on prend un penalty qui est discutable, mais enfin, on va pas chercher des excuses. Il y a pas d'excuses dans des matchs comme ça. C'est pas normal qu'une équipe de Super League perde un match de coupe en demi-finale contre une équipe de troisième division.
Oui, c'est vrai. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du football moderne, hein, ouais. Qu'une équipe de troisième division accède à la finale de la Coupe de Suisse. Est-ce qu'il y a une explication finalement rationnelle à ce qui est-ce que vous avez pris rationnel, est-ce que IB a pris bien un peu à la légère?
Non, je crois pas. Ça, je crois pas, parce que toute la semaine, l'entraîneur, il a mis en garde les joueurs, il a dit attention, il y avait comme déjà eu un avertissement avant, ils avaient éliminé, comme vous avez dit, Xamax.
Lugano.
Donc, c'était pas une équipe qui venait de nulle part, on savait que c'était une équipe qui était dangereuse. Et puis, on savait, il y a eu, à mon avis, j'étais pas dans le vestiaire, mais il y a eu aucun moment d'arrogance de la part de Young Boys. J'ai vu le match, j'étais au match, j'avais l'impression que les joueurs, ils voulaient tout donner, et j'avais l'impression qu'ils voulaient gagner ce match, parce que c'est quand même à une marche de la finale, tous les joueurs veulent aller en finale de coupe, ouais. L'entraîneur également, et le staff avait bien préparé le match, simplement il y a eu les circonstances, on n'arrivait pas à marquer, parce qu'on a eu beaucoup d'occasions quand même, on a eu des situations où on aurait dû marquer, on n'a pas été capable de la mettre au fond, ouais. Et puis après, ben voilà, après plus le match avance, plus ça donne un petit crédit à une équipe comme Bienne qui spéculait un petit peu sur justement.
Ouais, il y a la crispation.
Oui, d'avancer dans le match, parce que plus on avançait dans le match, plus on devenait peut-être un petit peu aussi nerveux.
Ouais.
Et puis après, il y a le gardien fait un super match, le gardien fait des super arrêts, puis après, il y a un pénalty un peu discutable. Voilà, mais on n'a pas mérité d'aller en finale à la fin. C'est ça la réalité. On n'a pas mérité d'aller en finale parce que pour mériter d'aller en finale, il faut battre Bienne.
Il faut battre Bienne, absolument. Alors, Grégoire Rogier, on va revenir quand même sur ce FC Bienne, un parcours exceptionnel, hein, pour arriver, on l'évoquait avec Gérard Castella, jusqu'à cette finale de Coupe de Suisse.
Oui, vous l'avez dit, hein, vous avez décortiqué le nom des adversaires du FC Bienne et surtout voilà le tableau de chasse de ce FC Bienne. C'est vrai que tout d'abord au premier tour, Bienne s'est déjà permis le luxe d'éliminer Neuchâtel Xamax, pensionnaire de Challenge League, donc c'est une division plus haut que le FC Bienne. Alors au départ, ça pouvait paraître peut-être un petit peu anodin, une surprise au milieu de tant d'autres dans ce parcours de Coupe de Suisse, mais ensuite, eh bien, il y a eu en quart de finale Lugano, il faut le rappeler. rappeler, hein, au moment de cette partie, Lugano est une des meilleures équipes de Super League. Bienne parvient à éliminer 2-0 ce FC Lugano. Et ensuite, comme l'a très justement dit Gérard Castella, certainement que Ibé n'a pas pris Bienne à la légère, parce que lorsque vous arrivez en demi-finale de Coupe de Suisse, voilà, tout le monde est averti, tout le monde sait que ce n'est plus une simple surprise d'arriver jusque-là. Mais voilà, le FC Bienne a aussi les ingrédients pour embêter des adversaires de Super League. C'est une équipe très bien organisée défensivement, qui laisse très peu d'espace à ses adversaires. Bien qui a aussi une capacité d'évoluer en contre-attaque pour surprendre un adversaire venu d'une ligue supérieure. Et puis finalement, eh bien, peut-être que cette qualification pour la finale de la Coupe de Suisse n'a pas totalement servi les objectifs de ce FC Bien, parce que après cette qualification face aux Young Boys, très vite, tant l'entraîneur que les joueurs nous ont rappelé que l'objectif numéro 1 du FC Bien cette saison, c'était la promotion en Challenge League. À l'époque de la qualification face à Young Boys, eh bien, ce FC Bien était en course pour terminer premier de Promotion League. Et sur les dernières semaines, cela s'est un petit peu gâté. Le FC Bien, qui n'évoluera pas en Challenge League l'année prochaine, c'est Rapperswil qui a décroché cette première place. Et ironie du destin, c'est aussi suite à une défaite face aux moins de 21 ans du FC Bâle que cette équipe du FC Bien a perdu ses dernières illusions et ses derniers espoirs de promotion. Voilà, une défaite 3-0 face aux moins de 21 ans du FC Bâle avant de retrouver demain le grand FC Bâle en finale. Ça vous présente un petit peu le tableau et l'énorme montagne qui attend ce FC Bien demain en finale de cette Coupe de Suisse.
Bah, quoi qu'il en soit, mon cher Grégoire, l'entraîneur biennois Samir Chaibedra ne se prend pas la tête. Mieux, il est plutôt relax aux côtés de Miguel Bau.
Ouais, très bien, très bien. Très excité un peu à l'image déjà du demi-finale contre IB, mais là avec beaucoup plus d'excitation encore, parce que ça va être une fête exceptionnelle, quoi qu'il arrive en plus.
Donc l'objectif de la saison du FC Bien, c'était d'abord la montée en Challenge League. Vous finissez troisième du championnat de Promotion League. Cet échec, si on peut le qualifier d'échec, est-ce qu'il est digéré ?
Ouais, c'est, j'allais dire, plus une déception qu'un échec, parce qu'aujourd'hui, si ça avait été un échec, je pense que je me serais retiré aussi. Mais aujourd'hui, ouais, la déception, elle est là, elle a été grande un peu après la défaite, notamment contre la réserve de Bâle. Mais aujourd'hui, on a digéré, on est passé à autre chose. Et c'est vrai que si en début de saison, on nous avait dit qu'on allait finir troisième de Promotion League et qu'on allait vibrer un peu jusqu'à deux journées de la fin et être en finale de Coupe Suisse, ça aurait été, j'aurais signé tout de suite, quoi.
Donc Bien, on peut déjà dire qu'il est entré dans l'histoire de la Coupe de Suisse, parce que c'est le premier club de troisième division à atteindre la finale. En plus, la petite symbolique, c'est que c'est la 100e édition de la Coupe de Suisse. C'est un truc. Qu'est-ce que vous réalisez ?
Ouais, en fait, pour tout vous dire, là, je vous fais un petit secret aussi. Pour tout vous dire, lors du tirage au sort contre Xamax, et quand on a passé Xamax, on s'est retrouvé un peu avec Marco Martella et Manu, mes deux adjoints qui étaient avec moi dans le vestiaire, et en fait on a regardé le petit centième Coupe Suisse, et on s'est dit, les gars, pourquoi pas cette année en fait. Et vraiment, on se l'est dit en étant très sérieux, et on s'est dit, c'est peut-être l'année aujourd'hui, le centième, mais sans se prendre la tête non plus, mais vraiment où on s'est regardé dans les yeux et on s'est dit les choses, et on s'est dit, ouais, bah pourquoi pas, c'est la centième, c'est le moment peut-être de rentrer dans l'histoire. Et on s'était dit ça vraiment dans le vestiaire, et aujourd'hui en fait on est à un match de peut-être se rappeler de ce qu'on s'était dit après la victoire contre Xamax.
Vous allez dire quoi à vos joueurs justement dimanche avant la finale? Je pense qu'il n'y aura pas forcément besoin de les motiver, parce que c'est un match que quasiment toute la Suisse va regarder.
Ouais, totalement, en termes de motivation, d'engouement, tout ce qui va se passer un peu autour, c'est vrai que j'aurais pas trop de choses à dire. Après, je vais surtout leur rappeler un peu qu'aujourd'hui, c'est pas un match de gala qu'on va faire. On n'est pas là pour dire, ouais, c'est la fête, on vient, on va essayer d'être très compétiteur, d'être très sérieux, et surtout, on va essayer d'arriver avec des ambitions. Et l'ambition aujourd'hui, c'est de gagner la coupe. Donc, pour ça, il faut pas qu'on se mette aussi dans une euphorie. On se dit, voilà, on est là. Si on perd, c'est pas grave. Non, si on perd, c'est grave. Si on gagne, ça peut être quelque chose d'exceptionnel aussi pour nous. Donc, ça, faut en rendre compte. Si on perd après, ce sera quelque chose de normal, mais en tout cas, nous, faut pas qu'on se mette de pression particulière, ou qu'on pense surtout que c'est un match et que voilà, quoi qu'il arrive derrière, on sera fiers de notre parcours, bien sûr, mais avec la victoire, ça sera mieux.
Samir Chaibedra qui dit si on n'a pas envie de gagner ce match ou qu'on sait d'avance qu'on a perdu, on reste à la maison. J'imagine vous partagez son avis.
Tout à fait. Je pense que c'est, quand on va sur le terrain, à n'importe quel niveau, on va pour gagner, c'est tout. Il reste, ça n'a pas d'importance.
On évoquait un souvenir tous les deux. Grégoire Ogier était encore pas né, Joël Robert tout juste à l'époque. C'est lorsque Servette a fêté son quadruplé, alors je me souviens plus l'année.
C'est la saison 78-79.
78-79, hein. Ils avaient failli être éliminés par la Rondinella, club de 3e ligue. Et finalement, Servette fait le quadruplé cette année-là. Vous jouez à Young Boys, vous avez perdu la finale.
Oui, on a perdu en finale contre Servette en deux matchs. On avait joué le premier match, on avait fait match nul 1-1. Et on a rejoué deux semaines après, de nouveau au Vangdorf. On a perdu 3-2 cette fois-ci. Mais oui, mais à la fin, ils étaient quand même qualifiés.
Contre la Rondinella. Oui, alors, donc, à l'inverse de...
Voilà, à l'inverse de Young Boys. À Bienne, mais c'était une équipe de 3e ligue, c'est vrai, et c'était aussi un match épique, et c'est chaque année, dans l'histoire de la Coupe Suisse, ce match revient à la surface, parce que c'était comme un match qui a marqué un peu l'époque, où Servette était le grand favori, la meilleure équipe en Suisse, il avait justement gagné la Coupe Suisse, gagné le championnat, gagné la Coupe de la Ligue, et la Coupe des Alpes, donc on voyait pas Servette se faire éliminer, ou même en difficulté contre une équipe de 3e ligue.
Ouais, effectivement, ça avait été le cas, j'étais au match, je m'en souviens très bien. Grégoire Ogier, le FC Bienne, ils sont en finale de Coupe Suisse, mais c'est quand même un club qui revient de nulle part, ou presque.
Oui, il faut rappeler que ce FC Bienne était en faillite il y a 10 ans. Le FC Bienne qui a dû repartir depuis la 2e ligue régionale. Le club ceylandais qui a ensuite gravi les différents échelons pour évoluer aujourd'hui en promotion league. Mais finalement, 10 ans, c'est rien du tout lorsque vous devez vous relever d'une faillite. Il y a un homme qui est à la base du renouveau de ce club. C'est le président Dietmar Fez. Je vous propose qu'on l'écoute avant cette finale de la Coupe de Suisse. Dietmar Fez qui mesure le chemin parcouru par son club.
Évidemment, et puis je pense qu'on a parcouru un chemin super intéressant avec beaucoup d'émotions, avec quelques promotions de la 2e ligue régionale, interrégionale, Premier League, Promotion League, mais c'était toujours l'objectif de rechercher de nouveau le Challenge League. On voit aussi le FCBN, il a regagné pas mal de crédibilité auprès de ses supporters, auprès de la région. Maintenant, la région elle est très fière d'avoir un FCBN. On a eu un guichet fermé contre Young Boys. Il y a à peu près 12 à 15 000 Biennois, Ceylandais ou des habitants du Grand Chastral qui vont aller à Berne. Il y aura une grande réception après notre tour à Bienne. Alors voilà, ça fait beaucoup de plaisir de voir ça. Et puis, ça fait aussi plaisir d'avoir un peu cette idée qu'on a pu créer quelque chose de bien pour la population.
Que le président Dietmar Fez, il réalise que son club est en finale.
Oui, bien sûr, il a réalisé ça. Tout d'abord, c'était la joie, c'était énorme de pouvoir vivre ça, ces émotions. C'est quand même quelque chose, on peut pas s'attendre. Je pense, si on est un président d'un club de 3e ligue, c'est impensable. Mais maintenant, on est arrivé, et puis des fois, je me demande pourquoi ça m'arrive. Mais bon, après, on accepte, puis on est très content. Et on se réjouit énormément de voir ce match, de vivre ces émotions. Et puis voilà, d'être présente au Vankdorf comme président du club à domicile.
Donc vous l'avez dit, un club de 3e division suisse qui atteint la finale, c'est une première. Donc le FC Bienne est déjà dans l'histoire. En plus, historiquement, c'est la 100e finale. En début de saison, si on vous dit Monsieur Faez, le FC Bienne sera en finale, vous vous dites quoi vous? Mais vous êtes fou?
Ouais, j'ai pas cru. Et puis je me rappelle que on a joué avant des matchs qu'on a joué contre Lugano, les gens s'approchaient, vous allez gagner de tous les côtés, ça va être très très difficile parce qu'à l'époque c'était Lugano qui était la meilleure équipe de la Suisse, c'était au Crédit International. Après voilà, on les a battus. Bon, je pensais c'est incroyable et je pense. Toute la région a pensé ça. On a vu les journaux juste la semaine avant eBay. Ils ont mis 2-3 pages par édition, tout ça. Et puis, on croyait pas que ça allait plus loin. Personne l'a cru. On a espéré. Peut-être l'équipe a cru. Et puis, le coach a cru. Finalement, voilà, on a gagné dans un match dramatique. On a gagné contre Young Boys. C'est la folie. C'est incroyable. Et puis, voilà, ça, c'est des fois des histoires qui se crée, qu'on peut pas s'imaginer. C'est comme un conte fait. Et puis, mais on est très heureux qu'on fait partie de cette histoire.
Donc, après la victoire contre Young Boys, cette victoire historique contre Young Boys, vous avez dit, la finale, on veut la gagner. C'est toujours d'actualité, ça ?
Mais bien sûr, parce que sinon on peut rester ici à Vienne, il ne faut même pas se déplacer à Berne, on veut la gagner. Mais c'est clair, on sait que le grand favori, c'est Bâle, c'est une équipe fantastique, Bâle, c'est une équipe avec beaucoup de tradition, Bâle, c'est l'équipe qui représente la Suisse dignement depuis des décades. Pour nous, c'est fantastique de pouvoir affronter Bâle avec Shakir, avec des autres joueurs de haute classe. Et puis, mais bien sûr, on essaye de gagner, ça va être très très difficile, mais de toute façon c'était difficile contre Lugano, c'était aussi difficile contre les Young Boys, c'était même difficile contre Xamax, premier tour. Maintenant voilà, on se retrouve dans la finale et puis on va tout faire pour créer une surprise ou une sensation.
Oui, je regardais Gérard Castella quand même, ben, pour lui ça n'a pas été une bonne nouvelle, mais c'est quand même là, c'est fantastique dans le sport, ces genres d'exploits qui sont fantastiques à vivre.
Non, mais c'est fantastique pour le FC Bien, naturellement, aussi pour le football, pour toutes les équipes au monde qui jouent contre une équipe soi-disant plus forte sur le papier. Et mais c'est pas le papier qui joue. À un moment donné, il faut y croire, il faut avoir le mental, il faut avoir l'état d'esprit, la mentalité. Et puis, ça donne aussi de l'espoir à toutes les équipes d'une ligue un petit peu inférieure, de battre le plus grand. Et ça c'est fantastique.
La joyeuse incertitude du sport.
Oui, c'est ça.
Hein.
C'est vrai. On peut pas tout prévoir.
Ouais. Grégoire Ogier, le FC Bienne, qui a quand même pas beaucoup, beaucoup d'expérience, hein, de joueurs d'expérience dans ses rangs. Il y a quand même un joueur qui a disputé des finales de Coupe de Suisse dans sa carrière.
Oui, c'est le milieu de terrain, Freddy Mweng. C'est vrai que c'est tout l'enjeu pour cette équipe du FC Bien demain. C'est vrai, on le dit, hein, depuis quelques minutes, Bien a réalisé plusieurs exploits, mais battre Lugano dans son stade, à domicile, battre Young Boys également à domicile, à la Tissot Arena, avec un public acquis à sa cause, c'est pas la même expérience que ce que vont vivre les joueurs du FC Bien demain. Demain, c'est le Wangdorf à Berne, un stade de 30 000 places qui sera à guichet fermé, donc l'ambiance s'annonce assez électrique. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui vont découvrir une atmosphère dont ils n'ont pas l'habitude, à l'exception, vous l'avez dit, hein, de Freddy Mweng. Lui a déjà joué deux finales de Coupe de Suisse dans sa carrière. C'était en 2011 avec Neuchâtel et Xamax, une défaite face au FC Sion. Puis en 2017 avec le club valaisan, là aussi une défaite, c'était face au FC Bâle. Alors on imagine forcément que pour sa troisième, Freddy Mweng, eh bien, rêve de pouvoir enfin soulever le trophée. Freddy Mweng qui pourra en tout cas, avant le match, essayer de partager son expérience à ses coéquipiers pour essayer de dédramatiser peut-être un petit peu ce match et essayer de leur permettre d'être au top de leur forme au moment d'entrer sur la pelouse du Wangdorf demain.
Mais on va voir comment, dès lors, Freddy Mweng appréhende-t-il cette nouvelle échéance. On l'écoute, il est toujours avec Miguel Bao.
Depuis que je suis là, j'ai quand même découvert un club qui est assez sain. Et puis c'est ça qui me manquait aussi également dans le foot suisse, où il n'y a pas des changements toutes les trois semaines, que ça soit bon, pas bon, etc. Chose qui se fait beaucoup dans d'autres clubs sans devoir tous les citer. Mais voilà, donc c'est un club qui est très sain, qui a des bons résultats. Puis maintenant, il nous manque juste cette promotion de Challenge League qui nous a échappé cette année, certes, mais on pourra aller la chercher l'année prochaine.
Vous parlez justement de cette promotion Challenge League, objectif que vous n'avez pas atteint. C'est digéré maintenant ?
Oui. Ça, en fait, le fait d'avoir perdu contre Bavois, c'est plus facile, entre guillemets, à accepter. Dans le sens où, là, on sait que c'est nous qu'on s'est loupé. On s'est loupé, tout simplement. Donc, c'est pas faire des calculs, je sais pas quoi, ou pendant 10 jours, tu parles du résultat. Là, on s'est complètement manqué à ce match-là. Rapperswil est monté, qui pour moi était l'équipe la plus constante. Hein. C'était peut-être pas la meilleure sur le papier, mais au final, ça ne compte pas. Et puis, c'est celle qui a été le plus régulier. Et puis voilà.
Dimanche, Freddy Mweng, il va disputer déjà sa troisième finale de la Coupe de Suisse. Ça dénote une grande carrière.
Non, une grande carrière, non. C'est ce que je dis tout le temps aux gens. Après, même si j'étais footballeur professionnel, sans dénigrer le championnat suisse, il y a encore d'autres championnats qui, pour moi, c'est encore un autre sport. Donc, je suis déjà fier de ce que j'ai accompli, mais on peut pas non plus dire que j'ai joué au Real Madrid ou quoi que ce soit. Trois finales de Coupe Suisse, c'est pas donné à tout le monde, certes, mais j'espère que la troisième, en tout cas, je pourrai la gagner. Et puis là, on pourra dire que oui, j'ai accompli quelque chose, mais sinon, quand on a à régler avec le FC Bâle, C'est une très belle équipe. Déjà, même en début de championnat, je pensais qu'ils allaient finir champion parce que ils ont un coach qui fait un travail qui est juste mais incroyable. Et ça, c'est pas seulement à Bâle. Partout où il a été, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est le top niveau en termes de coaching en Suisse. Et voilà, on espère que juste que ça sera un jour 100 pour eux et puis un grand jour pour nous.
Ouais, alors Freddy Mweng évoquait évidemment Fabio Celestini, entraîneur de Bâle. Comment Gérard Castella, vous jugez son parcours et cette belle saison qu'il a fait au FC Bâle, Celestini?
Bon, ben, je pense que Celestini, il a, depuis le temps qu'il entraîne, il le dit lui-même, il a fait des erreurs, il a fait des essais, des expériences. Et je pense qu'il était très intelligent quand il a repris le FC Bâle. De remettre d'abord de la discipline défensive, de remettre un petit peu ses idées en place, de construire une équipe où le collectif est très très important, où il a pu aussi mettre ses idées en place. Et aussi, cette année, avec l'arrivée de Shaqiri, ça change un petit peu la donne. Ça veut dire qu'il a un joueur, et je pense qu'il a eu l'intelligence aussi de le mettre dans une organisation, dans un système où il peut s'exprimer le mieux possible, où il sort un petit peu des tâches défensives, qu'il se consacre surtout aux tâches offensives, où c'est sa grande force, sa créativité, ses balles arrêtées, ses passes de but, ses buts. Donc voilà, il a mis en valeur les joueurs, et il a fait un collectif qui est capable de soutenir Shaqiri dans ses efforts pour que l'équipe, à la fin, elle gagne. Et c'est ce qu'il est arrivé à faire. Ça, c'est très fort.
Vous saviez que Bienne, c'est la première fois qu'un club de 3e division dispute une finale de Coupe Suisse, mais que ce n'est pas la première finale de Coupe Suisse de Bienne?
Non, Bienne, ils ont déjà fait une finale de Coupe Suisse dans les années, fin des années 50, 60, peut-être.
1961.
Voilà, ouais.
J'étais pas né encore. Oui. Juste pas. À quelques mois près.
Mais je me rappelle que Bienne, j'ai joué contre Bienne en Super League.
Ouais. Et ils avaient perdu 1-0 contre la Chaux-de-Fonds à cette époque-là. Ben, merci messieurs. On vous retrouve, Gérard, évidemment, dans quelques instants avec Joël Robert. Merci, Grégoire Augier, pour cette participation. Et puis, on va se faire une petite respiration musicale quand même avant de retrouver Joël Robert. Si je vous emmenais sur le chemin, allez, sur le chemin de l'enfer. On y va.
Leave it be. to hell.
Oh là là, l'autoroute vers l'enfer, Highway to Hell, le groupe AC/DC, ça a dû vous faire plaisir, Joël Robert.
Effectivement, bonsoir Laurent, bonsoir Gérard. C'est un très petite... beau morceau de musique.
Ouais, exactement, c'était une petite dédicace pour vous. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion d'envoyer un petit Metallica durant cette soirée. Et faut même... il y a Gérard qui s'inquiète parce qu'il n'entend pas le son, mais là il va devoir mettre le casque. Je crois qu'il n'a pas le choix et j'irai lui régler ensuite. Ben voilà messieurs, c'est le grand direct de cette soirée, la finale de la Ligue des Champions, qui dès 21h opposera le PSG, champion de France en titre, à l'Inter de Milan, vice-champion d'Italie. Et pour nous accompagner donc dans cette première demi-heure avant le grand direct, eh ben nous retrouverons dans quelques instants nos correspondants Vincent Duluc et Valentin Paoluzzi. Gérard Cassella sera notre consultant maison ici à Lausanne. Rebonsoir encore une fois Gérard.
Rebonsoir.
Vous étiez là, donc on a profité de vous utiliser. Et sur place à l'Arena de Munich, le plaisir de rejoindre l'homme le plus heureux de la planète ce soir, le commentateur Joël Robert. 21e finale de Ligue des Champions pour vous, qui a dû apprécier cette autoroute de l'enfer justement chantée par AC/DC. D'autant que Joël, ce soir, l'ambiance dans le stade n'aura rien de feutré.
Non, c'est une grosse ambiance de football parce que Paris et l'Inter ont vraiment des publics de feu et depuis une heure que les travées sont remplies par les supporters parisiens et italiens, il y a vraiment une énorme ambiance. On s'attend à une grosse partie de football ce soir parce que les ingrédients sont réunis. D'abord, ce sont deux belles formations qui sont tournées vers l'avant, qui marquent des buts. Il y a deux bons entraîneurs, il y a des bons milieux de terrain, il y a deux bons gardiens et je sens que l'on va avoir une grande finale parce que ces deux équipes méritent déjà d'être à ce stade de la compétition. L'Inter, durant toute cette période, a été quand même intéressant déjà dans le premier groupe. C'était plus compliqué pour Paris dans la première phase, mais ensuite lorsqu'il y a eu les matchs à élimination directe contre les clubs anglais, eh bien Paris a répondu présent et donc aujourd'hui Paris tentera de remporter sa première finale de Ligue des Champions. Palmarès vierge à ce niveau de la compétition pour les Parisiens, alors que les interistes, eux, en ont déjà quand même remporté 3, mais quand on en gagne 3, on en veut une quatrième. C'est-à-dire qu'il y a aussi évidemment de l'envie et de l'ambition du côté interiste.
Ouais, puis c'est une finale inédite en plus. Alors qu'est-ce qu'on peut en attendre, Joël?
Bon, on peut en attendre déjà un jeu intéressant parce que les deux équipes évoluent déjà dans leur composition standard. 4-3-3 pour le PSG et 3-5-2 pour l'Inter. Il y avait une incertitude du côté de Paris, c'est qui allait jouer en attaque aux côtés de Dembélé et de Kvaratskhelia. Eh bien, c'est Doué qui était préféré à Barcola, en tout cas pour le début de cette partie. Pour le reste, c'est l'équipe standard avec Donnarumma, Pacho, Marquinhos, Mendes et Hakimi en défense. Ruiz, Vitinha et Neves à mi-terrain, un très bon milieu de terrain. Et puis donc Kvaratskhelia, Dembélé et Doué en ligne d'attaque. Et puis du côté de l'Inter, il y a Yann Sommer dans les buts quand même, qui peut devenir ce soir le 6e joueur suisse à gagner la Ligue des Champions. Une défense à 3 avec Acerbi, Pavard et Bastoni, Dumfries et Di Marco sur les côtés, les hommes de couloir avec Barella, Çalhanoğlu et Mkhitaryan au milieu de terrain. Et puis le champion du monde Lautaro Martinez et le français Marcus Thuram en attaque pour les interistes de Simone Inzaghi, qui ont vraiment des arguments à faire valoir, comme d'ailleurs le PSG, parce qu'il y a des hommes devant pour marquer des buts, mais ça peut devenir de tous les côtés, notamment je pense aux deux latéraux que sont Hakimi et Dumfries, qui marquent des buts, qui montent, qui amènent le danger. Il y a vraiment des effectifs complets, je trouve, et c'est ça qui est extrêmement intéressant à mon avis dans cette finale.
C'est du 50-50, Gérard?
Oui, je pense que c'est une finale avec 50-50. Deux équipes totalement différentes sur le plan tactique. Hein, une équipe qui joue avec 3-5-2 avec des pistons très très offensifs, hein, de ce, le Dumfries et puis Di Marco de l'autre côté, contre une équipe qui joue un 4-3-3 pas traditionnel, mais pas avec un numéro 9 classique, avec un numéro 9 qui est fuyant, qui fuit les centraux. Donc il y a trois centraux contre un attaquant. On va voir un petit peu, ça va être intéressant, comment ils vont se débrouiller face à Dembélé, qui lui va fuir un petit peu ses arrières centraux, avec beaucoup de mouvements dans cette équipe du PSG. Et ça, c'est tactiquement, ça va être très très intéressant.
Joël Robert, le PSG court depuis 12 ans et l'arrivée des Qataris derrière ce titre suprême. Qu'est-ce qui cloche finalement chez les Parisiens?
Qu'est-ce qui clochait peut-être?
Ou clochait, oui,
pense,
en tout cas.
Oui, je pense qu'au début, enfin, quand ils sont arrivés, les Qataris ont été trop pressés. Ils ont voulu jouer le bling-bling avec des joueurs qui n'avaient peut-être pas le collectif en ligne de mire, qui n'avaient peut-être pas envie tous de courir pour le copain, qui n'avaient peut-être pas envie tous d'aller chercher ce titre pour ce club. Et puis depuis l'arrivée de Luis Enrique, eh bien cela a un peu changé. On voit qu'il n'y a pas vraiment de grandes stars dans cette équipe, pas de joueurs qui sortent du lot. Je pense évidemment quand il y avait Ibrahimovic, Mbappé, Messi, Neymar. Là, quand vous avez un milieu de terrain, Ruiz, Vitinha et João Neves, si vous allez dans la rue pour des non-spécialistes de foot, je suis pas sûr que ces noms disent quelque chose. Et pourtant, ils sont essentiels aujourd'hui à cette équipe du PSG. Dembélé recommence aussi à courir pour venir défendre. Il y a deux hommes sur les côtés doués et Kvaratskhelia qui aussi font des efforts. Et je pense que le mérite en revient à Luis Enrique qui a mis sa patte, qui est le vrai patron de cette équipe. Les Parisiens ont redéfini les rôles avec un président, un directeur sportif et un entraîneur. Chacun gère son business et ça donne aujourd'hui une équipe qui peut très bien gagner cette Ligue des Champions.
Alors nous avons voulu prendre évidemment la température en Italie et en France avec nos correspondants dans les deux pays. On écoute tout d'abord Vincent Duluc qui ce soir suivra le PSG et qui doit piaffer d'impatience pour un premier titre de l'histoire du club français en Ligue des Champions. Le PSG, vous le rappeliez tout à l'heure Joël Robert, qui n'a disputé à ce jour qu'une seule finale perdue en 2020 face au Bayern de Munich. Vincent Duluc.
Oui, en tout cas, c'était pas du tout l'idée du Qatar quand il a repris le club en 2012. Il y a eu une impatience qu'il a fallu gérer. Et paradoxalement, c'est au moment où le Qatar s'est éloigné un peu de sa politique bling-bling pour avoir une politique certes dispendieuse, mais en tout cas autour de jeunes joueurs, qui parvient en finale dans des bonnes conditions. C'est vrai qu'une finale en 12 ans, c'était pas assez. Mais celle-ci peut permettre enfin à Paris de rentrer dans l'histoire et peut-être dans le cœur des Français.
C'est la bonne cette fois, à votre avis ?
Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne, parce que quand même le PSG a été un petit peu secoué, pour dire les choses, par moment, tant par Liverpool en huitième que par Aston Villa en quart, ou même au match retour contre Arsenal en demi-finale. Et puis l'Inter a quand même beaucoup plus d'expérience, à peu près 5 ans de moyenne d'âge en plus. Il y a l'expérience également de la finale 2023, perdue contre Manchester City pour les Interistes, avec une équipe très proche. Donc voilà, et puis il y a surtout le fait que les Parisiens sortent de 3 matchs à élimination directe contre des clubs anglais. Les clubs anglais, c'est voilà, vous avez ce que vous voyez, c'est-à-dire que c'est des équipes qui ne trichent pas, qui ne simulent pas, qui ne provoquent pas. Et là, il va falloir rentrer dans une autre culture, parce que l'Inter a beaucoup plus de vie, ça fait partie, voilà, c'est un élément constitutif du football italien et aussi argentin, parce qu'il y a beaucoup d'Argentins. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut poser des problèmes à une jeune équipe qui va devoir à la fois gérer les émotions de l'événement et puis gérer un peu la tentation qu'aura l'Inter d'essayer de le faire sortir du match par tous les moyens.
Quelles sont les forces du PSG ce soir, Vincent Duluc ?
Je pense que la force du PSG, c'est d'avoir pu gérer athlétiquement toute cette fin de saison. Il n'y a pas de blessés, bon, il n'y en a pas non plus à l'Inter, mais l'Inter a dû quand même s'employer jusqu'au bout de la saison pour tenter de décrocher le titre. Le PSG est champion depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que Luis Enrique fait des changements à l'heure de jeu. Donc je pense qu'athlétiquement, le PSG sera là. Il est capable de beaucoup d'intensité dans son pressing, dans son contre-pressing. Il est capable de beaucoup de mouvements, de changer de position, de faire des courses de l'arrière, etc. Donc il peut vraiment, dans ses moments forts, je pense qu'il peut vraiment perturber l'Inter. Mais voilà, c'est une équipe qui a tendance à prendre des buts, qui ne garde pas beaucoup de clean sheet. Mais c'est une équipe qui a été portée quand même par Donnarumma sur les derniers matchs de Ligue des Champions. Si ça continue, je pense que Paris pourra tenir. Mais il faudra vraiment que ça continue. Voilà, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'écart quand même entre les deux équipes.
Qu'est-ce qui peut alors, à l'inverse, Vincent Duluc, péjorer ce soir le PSG ?
Il y a d'une part le sentiment, pas d'une malédiction, mais le sentiment que Marquinhos, le capitaine, qui est le joueur le plus âgé de l'effectif, qui a plus de 30 ans, bien parfois il est un petit peu friable dans les grands rendez-vous. Il a un peu de mal à gérer ça mentalement. Il y a aussi le sentiment, qui n'est un peu plus qu'un sentiment, que Nuno Mendes, qui avec le ballon est un joueur absolument extraordinaire et qui par sa vitesse rattrape des coups incroyables, ben dans son dos parfois il laisse un peu trop d'espace, il a des problèmes avec le marquage, avec la rigueur. Donc voilà, c'est je pense que les deux petites faiblesses défensives du PSG, c'est dans le dos de Marquinhos, c'est dans le dos de Nuno Mendes. Donc il faudra voir ce que Lautaro et Marcus Thuram pourront en faire, d'autant quand même que le PSG a pas eu l'habitude cette année d'être confronté à un duo d'attaquants comme ça qui peut l'obliger forcément à défendre autrement.
Gérard Gassella, vous partagez l'avis de notre confrère de l'équipe Vincent Duluc sur cette friabilité des centraux du...
Oui, il a pas tort. Ils ont des petits problèmes des fois défensifs, c'est clair. Mais je pense que pour moi la plus grande différence c'est un peu l'expérience. Quand vous voyez la moyenne d'âge de l'Inter, quand vous voyez un petit peu le palmarès de chaque joueur, le parcours de chaque joueur de l'Inter, et puis entre guillemets l'inexpérience des joueurs du PSG, c'est clair que là ça peut jouer un rôle à ce niveau-là, parce que c'est la Coupe, la Champions League, et il y a beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu que peut-être les joueurs du PSG ils ont pas encore.
Joël Robert.
Oui, l'expérience est capitale et je partage l'avis de Vincent Duluc et de Gérard Castella. Dans cette équipe de l'Inter, vous avez quand même des champions du monde, Lautaro Martinez, Thuram, Pavard, des champions d'Europe, italiens, parce que l'Italie est très 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 bonne sur le plan européen. Vous avez un gardien, Yann Sommer, qui a déjà lui aussi de gros rendez-vous dans les matchs importants. En face, c'est vrai que c'est un petit peu plus friable, j'ai envie de dire, mais c'est jeune. Et la jeunesse, c'est aussi intéressant. Mendes a 22 ans, Vitinha a 25 ans. Je vous assure que João Neves, 20 ans, c'est trois Portugais. On va les revoir à l'équipe portugaise dans les années à venir. Elle sera intéressante. Doué à 19 ans. Donc voilà, c'est aussi cette jeunesse-là qui devra montrer qu'elle a de la valeur face à l'expérience de cette formation italienne, dont plusieurs cadres ont largement dépassé les 30 ans, à l'image d'Acerbi qui en a 37. Donc voilà, cette différence-là dans ces matchs-là, parce qu'on sait bien que sur une finale de Ligue des Champions, il y a le jeu, mais il y a tout ce qui entoure cette finale, la préparation, l'approche de l'événement, et ça c'est extrêmement important. Une chose quand même qu'il faut retenir, c'est que les deux entraîneurs ont l'habitude de tout cela, parce qu'Enrique l'a déjà connu comme joueur quand il entraînait d'autres clubs, et Simone Inzaghi aussi l'a connu, donc eux peuvent déjà bien expliquer à leurs joueurs ce que c'est, ce que représente une telle finale.
Je ne sais pas si vous avez un retour image, Joël, avec les premières images qu'on reçoit en direct de Munich. On a vu Thierry Henry à l'instant, il y a eu aussi Tom Cruise, il y a du beau monde dans le public. Mais moi, j'aimerais vous entendre sur l'Inter, Joël. Les interistes ont dû abandonner le titre à Naples lors de la dernière journée. C'est pour vous un avantage ou ça pourrait être un inconvénient ?
Ouais, c'est difficile à dire. Moi, je pense, et j'ai analysé tout cela, j'ai vu que Simone Inzaghi a beaucoup fait tourner sur la fin de la saison. Et je pense que pour lui, la Ligue des Champions était primordiale au championnat. Il a gagné l'année passée, il fait deux. Bon, il ne va jamais dire cela, mais ils ont lutté jusqu'au bout, ils le perdent pour un point. Ils ont quand même marqué beaucoup de buts, 20 buts de plus que Naples. Il y a le Mondial des clubs aussi qui arrive pour l'Inter. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de matchs à digérer. Et puis, il faut le reconnaître aussi par rapport au PSG. La lutte pour le Scudetto est beaucoup plus compliquée que la lutte pour être champion de France. Quand on voit que PSG a joué Brest en finale de Coupe de France la semaine passée, enfin voilà, c'est comme s'ils ont joué bien, avec tout le respect que j'ai pour bien. Il y avait deux ligues d'écart. Donc c'était plus facile à gérer le championnat pour le PSG que pour l'Inter. Et voilà, Inzaghi a fait beaucoup tourner. C'est peut-être cela qui lui a fait perdre le championnat. Mais s'il gagne la Ligue des Champions ce soir, on va dire qu'il a eu raison de toute manière de faire tourner en fin de saison.
Et puis l'autre chose, Gérard Castella, c'est que le PSG était champion depuis quelques semaines et que là, l'Inter a dû lutter jusqu'au bout.
Ils sont même permis de partir quelques jours en vacances, les joueurs. Luis Enrique les a lâchés quelques jours pour qu'ils récupèrent pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. On verra si c'est payant ou pas, parce qu'à la fin, on a raison quand on gagne.
Ouais, c'est vrai. Eh bien, on va entendre maintenant notre correspondant en Italie, Valentin Paoluzzi, à qui on a demandé tout d'abord si les 6 finales, 3 victoires, 3 défaites, pourraient permettre à l'Inter de profiter justement de cette expérience, malgré sa défaite en 2023 face à Manchester City.
Bien sûr que ça peut faire la différence parce que c'est la même génération en fait. Voilà, qui a disputé la finale contre Manchester City il y a 2 ans. On va retrouver 8 joueurs ce soir dans le 11 titulaire qui était à Istanbul et qui avait perdu de justesse 1-0 contre Manchester City. Donc ça c'est évidemment un des points forts de l'Inter. Une moyenne d'âge plus de 30 ans. Si je me trompe pas, s'il devait remporter la Ligue des Champions ce soir, ce serait la plus vieille équipe à la remporter. Je parle de moyenne d'âge du 11 titulaire depuis le Milan d'Ancelotti en 2007. Alors c'est très très italien ça, les joueurs expérimentés, les trentenaires, et puis c'est une équipe qui a accumulé de l'expérience aussi tout au cours de la saison actuelle, en sortant de Zogre le Bayern et Barça, qui étaient peut-être même les deux favoris de la compétition.
Oui, face au PSG hein, qui accuse 5 ans de moins au niveau de la moyenne d'âge, ça pourrait être effectivement une des forces de l'Inter. Est-ce qu'il y en a d'autres hein?
elle a 24 heures de repos supplémentaire. Je sais pas si ça peut faire la différence, mais voilà, le PSG a joué son dernier match il y a une semaine, l'Inter c'était il y a 8 jours. Une équipe qui est très dangereuse sur coup de pied arrêté. Il y a une statistique assez folle, c'est qu'en cette Ligue des Champions, elle a inscrit 42% de ses buts sur coup de pied arrêté. Et puis un entraîneur, Simone Inzaghi, qui est plein de ressources, voilà, qui a eu le temps de façonner son jeu, son effectif, son équipe type en 4 ans. Ce sera d'ailleurs peut-être le dernier match pour lui à la tête de l'Inter ce soir, parce que voilà, il a reçu une grosse offre de l'Arabie Saoudite, 50 millions d'euros pour 2 ans. Ça a un peu parasité d'ailleurs la préparation du match de l'Inter, ça, l'avenir de Simone Inzaghi.
Un bon gardien aussi.
Oui, un très bon gardien. Il y a Yann Sommer qui avait encaissé seulement un but lors de la phase de poule. Ça a été un peu plus compliqué ensuite, bah, notamment quart de finale, demi-finale, parce que c'est le niveau des adversaires s'est élevé. C'était le Bayern et le Barça, et la demi-retour Inter-Barça, il encaisse 3 buts. Il arrive quand même à être homme du match. C'est sûr que quand on pense au duel, on va dire, de cette rencontre, c'est assez particulier ce match, parce que on pense pas à un défenseur contre un attaquant ou deux latéraux, on pense aux deux gardiens de but en fait, qui vont jamais se croiser. Mais c'est vrai que d'un côté on a Didier Donnarumma qui lui aussi a été décisif pour le PSG pour arriver jusqu'en finale, puis ce sera un match particulier pour lui parce que c'est un Italien, c'est le capitaine de l'équipe d'Italie. Puis de l'autre côté on a Yann Sommer, c'est peut-être même en ce moment les deux meilleurs gardiens du monde. Je pense qu'il faut pas avoir peur de le dire, Yann Sommer qui a toujours tendance à être sous-estimé, et cette saison il a montré de quel bois, enfin de quel pasta il fait, de quel pâte il est fait.
Exactement. Qu'est-ce qui au contraire peut péjorer justement au final l'Inter dans ce choc face au PSG?
Bah, ça manque parfois un peu de génie, voilà, d'intuition. C'est vrai que c'est une équipe parfaitement réglée qui joue par cœur, mais comme par exemple l'Inter, ça a toujours été l'équipe qui dribble le moins, voilà, en Ligue des Champions depuis le cycle Simone Inzaghi. Donc on sent que c'est un peu plus de mal à faire la différence dans les 1 contre 1, dans les duels. Si le PSG devait ouvrir le score et un peu plus se recroqueviller, c'est une équipe qui manque un peu de génie parfois. Ils ont deux attaquants, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, très complémentaires, mais voilà, qui ont pas, comment dire, la vista, l'intuition des attaquants parisiens, les Kvaratskhelia, Barcola, Dembélé et Doué sur le plan de touche.
Je vous ai vu faire un petit peu l'amour à un moment donné. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Valentin Paoluzzi?
Non, mais je pense que l'Inter, ils ont des arguments, hein. On voit bien au seul plan offensif. C'est intéressant, c'est les couloirs. Je pense que avec De Marco d'un côté, Dumfries de l'autre côté, comment le PSG va résoudre ce problème des couloirs, parce que là ça déménage, ça part en profondeur, ça demande de ballon dans la profondeur. Donc comment ils vont gérer ce problème là?
Ça déménage aussi du côté de Munich, mon cher Joël Robert.
Oui, parce qu'il y a un show d'ouverture avant le début de cette finale. Donc la pelouse a été recouverte pour ne pas l'abîmer. Et c'est le groupe californien Linkin Park qui est sur la scène pour 2 ou 3 chansons en guise d'ouverture. Voilà, c'est un petit peu à la mode depuis quelques années. Il y aura même un show à la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde dans 2 ans. Et j'ai appris un peu à l'image qui se fait dans les sports américains. Donc voilà. On est venu là pour du foot, mais un petit peu de musique avant le début du jeu, ça fait aussi partie du business de cette Ligue des Champions. Tout à l'heure, vous évoquiez la présence de Tom Cruise, la présence de David Beckham. Il faut le dire qu'il y a un nombre incroyable de personnalités. C'est vraiment the place to be, l'endroit où est cette finale de Ligue des Champions. Chaque année, c'est devenu une manifestation qui regroupe les fans de foot, mais pas uniquement. Politiquement, il faut être vu. Il faut être vu à tous les points de vue. Tous les sportifs qui ont compté ou qui comptent sont là. J'ai même vu tout à l'heure Roy Hodgson, l'ancien sélectionneur, qui était là, qui est même allé tâter le gazon. On sent bien encore la fibre d'un entraîneur pour voir comment il était. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est un show, mais que voilà, dans maintenant un petit peu plus de 10 minutes, les équipes vont entrer sur ce terrain. Et c'est vrai que par rapport à l'Inter et Yann Sommer, moi ce que je trouve remarquable de la part de Yann Sommer quand même, c'est qu'il était champion de Suisse, il était champion d'Allemagne avec le Bayern, même s'il n'a pas beaucoup joué, il était champion d'Italie avec l'Inter. Il a fait une carrière absolument extraordinaire avec l'équipe de Suisse. Il est allé au maximum à 2 reprises. Il était aux portes de demi-finale de grosse compétition. Ça s'arrêtait en quart de finale. Il a fait un choix, je pense, qui était juste de privilégier sa carrière en club au détriment de l'équipe nationale parce qu'il y avait un gardien intéressant derrière. Et c'est pour cela, à mon avis, qu'il est encore en forme, qu'il a encore la niaque, qu'il a encore l'énergie. C'est qu'il n'a, entre guillemets, plus que l'Inter. Et voilà, il met son énergie, sa force, il peut récupérer durant les pauses internationales et c'est important. Et c'est une des raisons, à mon avis, qui explique pourquoi aujourd'hui Yann Sommer est encore un excellent gardien.
Gérard, vous vouliez réagir ?
Oui, je voulais. Naturellement, je suis d'accord avec l'analyse de Joël.
Yann, bon, ça m'intéresse, sinon vous êtes viré. Hein.
Non, Yann, il fait une carrière fantastique. Il a encore le très très haut niveau.
Ouais, c'est vrai.
Il peut jouer encore quelques années. Il était décisif dans cette Ligue des Champions jusqu'à présent. Il était décisif aussi avec l'équipe suisse, naturellement. Je pense qu'il a eu la sagesse de se retirer de l'équipe nationale. C'est vrai qu'il y avait un jeune gardien qui arrivait derrière lui, mais quand même. Il aurait pu encore faire encore une ou deux années avec l'équipe nationale et je trouve que Yann c'est la classe.
Ouais, vraiment une saison. Bah, quelques petites difficultés là sur le quart de finale, la demi-finale, mais finalement c'est il reste un très grand gardien, Joël Robert. Je crois qu'on peut dire que c'est un gardien d'une qui est immense, hein, Yann Sommer.
Non mais c'est le meilleur gardien de l'histoire de la Suisse, il y a aucun doute là-dessus. Et s'il fait un match grandiose ce soir et que l'Inter gagne la finale, il sera peut-être élu meilleur gardien de la saison, c'est pas impossible. Yann Sommer est très bon sur sa ligne, il est vite à terre quand il faut avoir des arrêts réflexes, il est là. Il est bon sur les pénaltys, pas besoin de vous refaire l'histoire oui. Du quart de finale quoi, à Bucarest quand il arrête le pénalty d'Mbappé. Certains lui reprochaient sa relative petite taille, attendons-nous pour un gardien, mais il lit très bien le jeu. Alors, c'est vrai que dans les sorties, c'est peut-être pas toujours son point fort, mais sa lecture du jeu, le fait qu'il est, tout le temps bien calé sur ses appuis, fait que c'est un joueur extrêmement intéressant. J'ai vu des plus grands gardiens que lui être beaucoup moins rapide, beaucoup moins leste, lire beaucoup moins le jeu. La grande taille ne fait pas automatiquement un bon gardien. Bon, en face, on a Donnarumma qui est grand et qui est très bon. Il y a aussi des grands gardiens qui sont bons, mais pour moi, c'est pas irrémédiable. Et Yann Sommer le prouve. Et ça doit être aussi l'image que l'on doit donner à tous les jeunes qui nous écoutent et qui regardent des matchs de foot. C'est pas parce que vous faites pas en mettant nom que vous pouvez pas être un bon gardien de but. Et ça, c'est important. On a toujours tendance, des fois, à avoir des stéréotypes que si vous touchez pas la barre transversale avec la tête, allez, j'exagère un petit peu, vous ferez pas un bon gardien. C'est faux. Yann Sommer en est la preuve contraire.
Oui. Et puis, bon, il a quand même un jeu au pied fantastique, hein. Il est dans le football moderne, on a besoin d'un gardien qui sache jouer, qui est capable de relancer, qui est capable d'avoir une bonne vision du jeu, une bonne anticipation naturellement, mais surtout une bonne lecture pour pouvoir justement construire le jeu depuis derrière. Aujourd'hui, toutes les équipes elles veulent construire le jeu depuis derrière et le premier relanceur c'est le gardien.
C'est le gardien et c'est fou. Ce qui est fou en 2025, messieurs, c'est que habituellement on parle de l'attaque face à la défense ou de la défense davantage d'un milieu de terrain par rapport à une défense et là tout est focalisé sur les deux gardiens. Je crois que c'est Vincent Duluc qui disait tout à l'heure certainement les deux meilleurs gardiens du monde ou deux des meilleurs gardiens du monde. Et c'est vrai qu'on est très focalisé sur ces deux gardiens et pas seulement parce que Yann Sommer est suisse.
Non, mais aujourd'hui c'est important. Le football, c'est pas seulement un ou deux ou trois joueurs. C'est vraiment un tout. Et ça commence avec le gardien. Si vous voulez bien jouer au football, si vous voulez relancer le jeu, si vous voulez être offensif, si vous voulez avoir la possession, il faut que votre gardien soit capable de vous faire la première passe, de vous faire la deuxième passe, qui est capable aussi de sauter les lignes. Et ça, c'est important d'avoir un gardien qui soit aussi formé pour pouvoir jouer au football.
Voilà. Eh ben, messieurs, on va vous ouvrir l'antenne à plein, vous céder la parole pour cette match de la Ligue des Champions, pour cette finale de la Ligue des Champions. Alors, on a encore 6 minutes, 37 minutes avant le flash de 21h. Et puis ensuite, on vous retrouvera des 20h04, évidemment, pour, cette finale de Ligue des Champions qui promet, en tout cas, qui nous fait tous saliver, ici et ailleurs, dans notre pays, à l'étranger. Ben voilà, Joël. Ça va partir. On a vu Linkin Park quitter le stade.
Là.
Pas tout à fait, ouais.
Ouais, ça sera bientôt terminé. Il faut faire patienter les spectateurs, évidemment. Mais c'est vrai que l'ambiance monte gentiment. L'ambiance va être complètement folle. Et dans quelques instants, eh bien, les deux capitaines que sont Marquinhos et Lautaro Martinez vont entrer sur cette pelouse. Tout à l'heure, on se focalisait sur les deux gardiens, Yann Sommer et Donnarumma. Mais les milieux de terrain, pour moi, sont également extrêmement intéressants, Gérard. Et le trio Ruiz, Vitinha, Neves du côté du PSG est extrêmement complémentaire. Mmh. Et même si Donnarumma est très fort, évidemment, mais ces trois hommes-là sont indissociables. Et ensemble, Gérard, ils forment vraiment un milieu de terrain extrêmement compétitif.
compétitif et complémentaire, ça c'est vraiment le mot. C'est vraiment trois joueurs qui se complètent bien, avec des joueurs qui vont dans la profondeur, des joueurs qui sont capables aussi de gagner des duels, de gagner des ballons, de pouvoir équilibrer l'équipe. Je pense que c'est ils sont très très complémentaires et surtout ils travaillent beaucoup. C'est déjà des joueurs qui seulement, non seulement techniquement ils sont très très forts, mais en plus de ça c'est des bosseurs incroyables. Ils récupèrent un nombre incalculable de ballons et ils rechignent à rien. Donc, et puis ils sont aussi capables de se projeter dans la surface. Et ça c'est très intéressant que vous avez des milieux de terrain qui sont à la conclusion des actions, qui puissent aller finir l'action, qui soient aussi de temps en temps qui marquent un but. Et quand vous voyez qu'un joueur du milieu de terrain marque 2, 3, 4, 5 buts par saison, ça pour un entraîneur c'est de l'or en barre.
Ouais, Vitinha d'ailleurs tire même les pénaltys du côté du PSG. On voit Fabián Ruiz extrêmement important. On l'avait vu avec l'Euro dans l'équipe d'Espagne quand il était présent. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est vrai que ce milieu de terrain est extrêmement intéressant. Du côté de l'Inter, évidemment, c'est pas la même disposition tactique avec Di Marco et Dumfries sur les côtés, mais Barella, Çalhanoğlu et Mkhitaryan. Alors c'est beaucoup plus expérimenté. C'est 28 ans pour Barella, 31 pour le Turc et 36 pour Mkhitaryan. Qui, soit dit en passant, ce soir pourrait gagner sa troisième Coupe d'Europe différente. Il a gagné l'UEFA, il a gagné la Coupe de l'UEFA, la Coupe de la Conférence. Il pourrait gagner ce soir la Ligue des Champions. C'est différent, mais c'est aussi extrêmement efficace.
Oui, de toute façon, c'est trois grands joueurs qui jouent au milieu. Hein. Barella, c'est un des meilleurs joueurs au milieu de terrain italien. Mais Mkhitaryan, il a rien à prouver depuis tellement d'années qu'il est sur le niveau. Moi, le joueur qui me plaît beaucoup dans ce milieu de terrain des deux équipes, c'est João Neves. J'adore ce joueur. Il est d'une telle générosité, d'une telle aisance technique. Il est polyvalent. Il joue même des fois latéral droit, des fois latéral gauche. Il est incroyable au milieu. Et ça, pour moi, lui, c'est un joueur de l'or en barre pour l'entraîneur.
20 ans, Gérard.
20 ans, oui, en plus. Non seulement il est fort, mais il est jeune encore. Incroyable.
Comme vous avez Neves, 20 ans, et devant lui Désiré Doué, qui lui aussi techniquement est absolument incroyable. Il fait des choses fantastiques avec le PSG, sélectionné en équipe de France. Ça, c'est vraiment l'avenir du foot international. Et c'est très intéressant pour des formateurs comme vous, Gérard, de pouvoir montrer qu'à cet âge-là, on peut aussi réussir au haut niveau.
Oui, parce que on n'a qu'à voir notre ami de Barcelone, hein, lui,
Yamal,
il a 17 ans, il est déjà au top niveau. L'âge, à la fin, c'est pas important, c'est les qualités, c'est le talent, mais c'est aussi le travail derrière.
Et les deux équipes entrent à l'instant sur cette pelouse avec le trophée de la Ligue des Champions, la coupe aux grandes oreilles, comme l'a nommé en son temps si délicieusement le président marseillais Bernard Tapie. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun joueur, peut-être par superstition, qui l'a regardé, emmené par l'arbitre roumain monsieur Kovacs. Les deux capitaines évidemment, Lautaro Martinez, le champion du monde argentin, et Marquinhos, le brésilien, dans une ambiance vraiment extraordinaire. Ensemble, nous sommes invincibles. Le tifo du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de tifo du côté de l'Inter, si ce n'est des banderoles. Nous sommes l'Inter, on va gagner. Allez les gars, donc c'est vraiment une ambiance digne d'une finale de Ligue des Champions dans un superbe stade. Franchement, ce stade du Bayern, c'est quelque chose d'extraordinaire. On voit la sérénité dégagée par Yann Sommer, le gardien toujours juste à côté du capitaine. Lui, évidemment, qui connaît bien ce stade, même s'il a eu des années un petit peu plus pénibles lorsqu'il a passé quelques temps du côté du Bayern. Les donnants et aboutissants de cette finale vous ont été présentés en long en large depuis 20h30. Madame, messieurs, dans quelques secondes, le début de cette finale de Ligue des Champions qui d'habitude clôt la saison en club avant qu'il y ait les équipes nationales. Mais pas cette année, parce que dans une semaine et quelques, il y a un mondial des clubs qui va encore avoir lieu aux États-Unis. L'Inter y sera, le PSG aussi. Il y a des clubs venant du monde entier avec beaucoup, beaucoup de millions à la clé. Ce qui va, Gérard, prolonger la saison pour pas mal d'internationaux quand même.
Oui, c'est assez incroyable qu'il y ait quelques joueurs qui jouent aujourd'hui vont être encore sollicités avec ce championnat du monde des clubs. Je ne sais pas dans quel état physique ils vont être, mais en tout cas, ils devront certainement être là. Mais on verra comment ils vont gérer ça. J'ai un petit peu quand même de l'inquiétude pour les blessures, pour un petit peu pour aussi sur le plan mental, de pouvoir bien récupérer.
Ouais, parce qu'il y a certaines équipes qui jouent quand même le Final Four de la Ligue des Nations à partir de la semaine prochaine. Hein. La France, par exemple, va revenir. Elle joue à Stuttgart et éventuellement à Munich. Il y a les Espagnols. Des joueurs comme Doué, Dembélé ou Ruiz, potentiellement, lundi, sont avec leur équipe nationale. Ils jouent deux matchs importants pour gagner la Ligue des Nations. Ils prennent l'avion. 12 heures de vol, 6-7 heures de décalage horaire pour aller faire un mondial des clubs sur 2 ou 3 semaines. Ça va être extrêmement compliqué. Vous avez raison. La charge mentale, la charge psychologique aussi, de ne jamais finalement déconnecter avant une saison suivante qui s'annonce elle aussi importante parce que les championnats vont reprendre. Il y aura les qualifs pour la Coupe du Monde et l'année prochaine, il y a la Coupe du Monde avec 48 équipes. Donc il y a deux saisons là pour les joueurs des grands clubs absolument incroyables avec leur club et avec leur sélection nationale. J'espère pour vous, Gérard, je croise les doigts qu'il n'y ait pas trop de blessés, qu'à la fin de cette saison, on ne se dise pas, il y en a qui sont des claquages et compagnie quelques mois sur la touche. Enfin, on verra bien tout cela. C'est de la musique d'avenir, ce qui nous intéresse évidemment.
Et Joël,